Joël Giraud, bonjour.
Bonjour.
Député Renaissance des Hautes-Alpes, rapidement, on en parlait hein, il y a quelques instants, la grève de la faim de Roger Didier, 9e jour. Vous soutenez qui dans cette affaire? Le maire qui demande la réouverture de 2 classes sur sa commune ou l'académie, l'inspection académique qui ne flanche pas en disant qu'une classe qui rouvrirait sur Gap, eh bien, ce serait une classe en moins dans une autre commune des Hautes-Alpes?
Ah, écoutez, je crois que la réaction avec un petit peu de chantage que vous venez de décrire n'est pas forcément la bonne. Non, ce que je voudrais dire simplement, c'est que sur l'ensemble, je dirais, du département, c'est vrai que nous faisons partie des départements qui sont relativement bien dotés en enseignants par rapport au nombre d'enfants. Et je suis toujours très inquiet lorsque je vois des enfants qui doivent prendre le chemin des autocars de plus en plus tôt parce qu'il y a petit à petit des effectifs qui diminuent dans des fonds de vallée. C'est vrai que c'est plus grave que d'aller d'une école à l'autre sur la commune de Gap. Bon, pour autant, je crois que le dialogue maintenant va être rétabli et qu'il serait bon que le maire de Gap, pour des questions d'ailleurs qui sont des questions de santé, parce que j'ai trop connu des gens faisant une grève de la faim, et notamment Jean Lassalle, pour savoir les dégâts que ça peut provoquer, que le maire de Gap soit raisonnable et puis que d'ici à jeudi, puisqu'il y a un rendez-vous avec le recteur de l'académie qui monte à Gap, il puisse reprendre, je dirais, le cours normal de la vie. Alors, il ne s'agit pas de dire je ferme l'un si je veux rouvrir l'autre, mais de faire en sorte que l'on trouve un compromis sur cette ville de Gap sans pour autant fermer quoi que ce soit en plein milieu de la ruralité. Je le dis, je répète, quand il y a des problèmes d'effectifs sur la Gravillard d'Arennes ou sur Molines-Saint-Méran, c'est quand même plus difficile pour les gosses.
Réforme des retraites, c'est l'actualité politique. Emmanuel Macron parle de l'insérer dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale. L'étude doit débuter le 26 septembre à l'ouverture de la session parlementaire. Est-ce qu'il faut être rapide dans cette réforme de la retraite, passer en force au mépris du dialogue social?
Je crois que le président de la République a dit en même temps qu'il fallait à la fois être rapide et concerté, ce qui est un paradoxe, mais ce que je crois nous pouvons quand même faire. Bon, on est face à une réforme qui de toute façon sera in fine nécessaire, avec des inégalités dans ce pays qui ne sont plus acceptables. Vous avez quand même des personnes qui ont des systèmes de retraite qui sont, je dirais, plus favorables. J'en fais partie d'ailleurs au titre de la fonction publique, il faut être très, très clair. Il y a aussi des gens qui aujourd'hui touchent des retraites qui ne leur permettent pas d'avoir des niveaux suffisants. Donc avoir une retraite minimale qui soit une retraite minimale décente, pour moi, est un objectif absolu. Alors, il doit se faire en concertation. Je crois qu'il y a des syndicats qui sont des syndicats réformistes dans ce pays et qui ont dit quelle était leur aptitude au dialogue. Bon, il y en a qui le sont un peu moins. Donc, je crois qu'il faut concerter les syndicats réformistes. Et si cette réforme prend un an de plus, eh bien, il vaut mieux un an de plus à dialoguer quelque chose qui pourrait être perçu comme un oukase et qui remettrait beaucoup trop de gens, non pas dans la rue, parce que c'est pas le sujet, mais dans une certaine incompréhension. Donc repartons des fondamentaux, une retraite minimale, plus d'égalité entre les citoyens, parce qu'à l'heure actuelle, la retraite n'est pas quelque chose d'égal. Il y a des gens qui partent à la retraite avec des niveaux de vie qui sont très 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 bas. Et discutons sur le couple, entre guillemets, entre l'augmentation d'un certain nombre de cotisations et l'allongement de la durée, sans a priori. Je crois qu'une partie de la population y est prête, une partie des syndicats, notamment les réformistes, sont prêts également. Donc discutons calmement, et si ce n'est pas un paquet dans le PLFSS de cette année, le projet de financement de la sécurité sociale, ce sera un texte dédié un peu plus tard, ou le PLFSS de l'année prochaine, mais en tout état de cause, je crois qu'il faut hésiter, il faut aller à la fois vite, mais éviter la précipitation quand même.
Ne pas être trop rapide et dialoguer. Dominique Faure, la secrétaire d'État en charge de la ruralité, attendu aujourd'hui dans les Alpes-de-Provence, demain dans les Hautes-Alpes, des collectivités aujourd'hui qui se retrouvent à la peine face au coût de l'énergie. Certaines piscines municipales ferment. On voit beaucoup de communes aujourd'hui qui réduisent l'éclairage public la nuit. Qu'est-ce qu'on peut leur promettre à ces collectivités aujourd'hui?
Déjà, une première remarque, des collectivités sont en train de réduire l'éclairage public la nuit. Moi, quand j'étais maire, je l'ai fait à l'époque.
Donc, mesure de bon sens qui aurait pu être prise plus tôt.
Disons que ça fait partie des choses qui me semblent évidentes et que l'on a mis en place il y a de cela, je crois ici, plus de 10 ans, enfin, dans une commune qui a quand même près de 3000 habitants. Et mon successeur a même à nouveau restreint les horaires, donc il a raison. Donc je crois que très honnêtement, cette crise, elle fait comprendre aussi qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec l'énergie. C'est un discours que j'ai toujours tenu. Il y a des primes de conversion sur un certain nombre de choses. Nous avons eu ici des TEPCV qui permettaient de faire en sorte que les bâtiments publics puissent bénéficier de mesures de réduction d'énergie. Donc, je crois que ça fait prendre conscience d'un certain nombre de problèmes. En revanche, il y a des choses qui ne peuvent pas se faire, je dirais, du jour au lendemain. Et c'est la raison pour laquelle on a voté dans la loi pouvoir d'achat un fonds qui est un fonds dédié pour les collectivités en difficulté. Parce que les collectivités, vous savez, c'est comme la population. Il y a une moyenne des collectivités qui voient leur pouvoir d'achat, entre guillemets, progresser. C'est une vraie moyenne. Par contre, il y a un écart type important, c'est-à-dire qu'il y a des communes qui sont de plus en plus pauvres. Et je crois qu'aujourd'hui, ce fonds que nous avons mis en place pour les collectivités, il a un défaut. Il a un défaut, c'est qu'il doit prendre en compte les comptes administratifs constatés dans l'année 2022. Donc c'est un peu tard. Pour autant, il y a un système d'avance. Un système d'avance, et moi je vais inciter les différentes préfectures, quelles qu'elles soient, à regarder la mise en œuvre de ce système d'avance de manière, j'allais dire, plus importante et avec des critères objectifs, de façon à ce que, notamment je pense aux petites intercos qui ont des piscines parce que, tout simplement, il faut que l'apprentissage de la natation se fasse, puissent être aidés sans attendre la constatation des comptes administratifs. Donc voilà des mesures, mais des mesures aussi qui vont être importantes à modifier, et nous allons en parler avec le secrétaire d'État à la ruralité, puisqu'elle a également, comme je l'avais à l'époque, la montagne dans son portefeuille. Les mesures qui sont prévues pour les stations de sport d'hiver, alors je laisse à Domaine Escape de France le soin de les qualifier de insuffisantes, très insuffisantes ou autres, mais pour autant, elles ne sont pas accessibles à l'heure actuelle aux stations en régie, c'est-à-dire les plus petites. Donc là aussi, il faut que nous ayons des alliés au gouvernement pour que les plus petites stations, les stations en régie, puissent bénéficier de ce, entre guillemets, bouclier tarifaire des entreprises. J'y étais arrivé à l'époque du Covid, où on m'avait expliqué la même chose, que les régies ne seraient pas concernées. On est arrivé à le faire, il faut qu'on y arrive aujourd'hui pour que les plus petites stations ne soient pas pénalisées.
Et les autres, notamment les ORS, qui parlent d'un mur financier avec cette facture qui augmente 2 millions d'euros.
Il y a à l'heure actuelle un système, on est arrivé déjà à modifier les choses, mais ce système est un système global pour les entreprises qui ne prend pas en compte forcément la saisonnalité. Ce sera tout l'enjeu de deux congrès, des congrès qui vont se tenir très bientôt, un à Briançon, celui des associations de maires de stations, où là encore la ministre sera présente, puisque ce congrès est mercredi à Briançon, mais également du congrès de Domaine Escape de France, où c'est la secrétaire d'État en charge justement de ce sujet à Bercy qui sera présente, pour que nous puissions arriver à quelque chose qui fasse que les entreprises, qui sont des entreprises à forte consommation, c'est-à-dire ce qu'on appelle les électro-intensifs, j'aime pas trop ce terme parce que ça fait un peu techno, mais des gens qui consomment beaucoup d'énergie, mais qui le consomment sur des périodes extrêmement courtes qui se correspondent à la saison, puissent être mieux aidés, parce qu'à l'heure actuelle, si je regarde la facture classique d'augmentation des coûts de l'énergie, une station comme les ORS, grosso modo, c'est 1,5 million, et une station comme les ORS va toucher 150 000 euros. Alors, on peut faire des économies, mais pas sur le delta qui est trop important. Donc, il faut que, sur ce plan-là, l'économie saisonnière soit prise en compte dans le cadre des mesures, et je m'y emploie.
Merci beaucoup, Joël Giraud, d'avoir été avec nous ce matin, député Renaissance des Hautes-Alpes.